Chapitre 12. Charleston, jeudi 18 décembre 1980.
Ça m'étonne qu'il n'ait pas encore neigé, dit Saul Lasky.
Ils étaient tous les trois assis dans la voiture du shérif, Saul et Gentry à l'avant, Nathalie à l'arrière. Il brunait et la température avoisinait les 10 degrés. Nathalie et Gentry ne portaient qu'une veste. Saul avait enfilé un pullover bleu sous son vieux blouson en tweed. Du bout de l'index, il remonta ses lunettes sur son nez et regarda la rue à travers le pare-brise strié de pluie.
« Dans 6 jours, c'est Noël, et il ne neige toujours pas. Je me demande comment vous pouvez vous y faire. »
« J'avais 7 ans la première fois que j'ai vu de la neige, » dit Bobby Joe Gentry.
« On a fermé l'école en milieu d'après-midi. Il y avait à peine 2 centimètres. » Mais nous avons tous couru chez nous comme si c'était la fin du monde. J'ai lancé une boule de neige, la première boule de neige de ma vie, et j'ai brisé la fenêtre du salon de la vieille Miss McGilvray. Ça a failli être la fin du monde pour moi. Quand mon père est rentré à la maison, ça faisait 3 heures que je l'attendais. J'avais même sauté le dîner. J'ai été enchanté de recevoir une raclée et de m'en tirer à si bon compte.
Gentry appuya sur un bouton et les essuie-glaces balayèrent 2 fois le pare-brise avant de s'immobiliser avec un bruit sec. De nouvelles gouttes vinrent aussitôt consteller la vitre.
« Eh oui, » dit Gentry d'une voix basse et agréable que Saul commençait à bien connaître. « Chaque fois que je vois de la neige, je repense à cette raclée et aux efforts que je faisais pour ne pas pleurer. Il me semble que les hivers deviennent de plus en plus froids. » Que la neige tombe de plus en plus souvent.
Est-ce que le docteur est arrivé? Demanda Nathalie.
Non. Il n'est que 4h-3, dit Gentry. Calhoun se fait vieux et, à ce qu'on m'a dit, il a ralenti son activité. Mais il est aussi ponctuel qu'une horloge suisse. Comme un chat à l'heure de la pâtée. S'il a dit qu'il serait là à 4 heures, il y sera.
Comme pour confirmer cette remarque, une longue Cadillac noire apparut devant eux et alla se garer à quelques mètres de la voiture de Gentry. Saul examina la rue. Le quartier où il se trouvait, situé à plusieurs kilomètres du vieux quartier chic, était séduisant, associant l'élégance de l'âge à l'aspect pratique de l'architecture moderne. Une vieille conserverie avait été convertie en immeuble de bureaux et d'habitations, on y avait ajouté des garages et des fenêtres, on avait décapé ses murs de briques à la sableuse et complété, réparé ou repeint ses boiseries. La restauration avait dû être effectuée avec beaucoup de soin, pensa Saul.
Êtes-vous sûr que les parents d'Alicia sont disposés à collaborer? Demanda-t-il.
Gentry ôta son chapeau et passa un mouchoir sur le cuiret.
Tout à fait disposé. Mrs. Kaiser est folle d'inquiétude pour sa fille. Elle dit qu'Alicia ne mange plus, qu'elle se réveille en hurlant chaque fois qu'elle essaie de s'endormir, et qu'elle passe ses journées à regarder dans le vide.
« Ça fait à peine 6 jours qu'elle a vu sa meilleure amie se faire assassiner, » dit Nathalie.
« Pauvre petite. » « Ainsi que le grand-père de sa meilleure amie, » ajouta Gentry.
« Et peut-être d'autres personnes, pour ce que nous en savons. »
« Vous pensez qu'elle était à Mansard House ?» demanda Saul.
« Les témoins ne se rappellent pas l'y avoir vue. » Mais ça ne veut pas dire grand-chose. S'ils n'ont pas reçu un entraînement adéquat, la plupart des gens ne remarquent rien de ce qui se passe autour d'eux. Il existe des exceptions, bien sûr, des gens qui remarquent tout. Malheureusement, ce ne sont jamais ceux que l'on trouve sur les lieux d'un crime.
« On a retrouvé Alicia non loin de là, n'est-ce pas ?» demanda Saul.
« En plein milieu du périmètre des meurtres. Une voisine l'a vue au coin d'une rue, les yeux hagards et en larmes, à peu près à mi-chemin de Mansard House et de la maison Fuller.
Est-ce que son bras va mieux? Demanda Nathalie.
Gentry se tourna vers la banquette arrière. Il sourit à la jeune femme. Ses petits yeux bleus semblaient plus éclatants que la faible lumière hivernale.
Bien sûr, madame, ce n'était qu'une simple fracture.
Si vous m'appelez encore une fois, madame, shérif, je vous casse le bras.
Oui, madame, dit Gentry apparemment sans malice.
Il se retourna vers le pare-brise.
« C'est bien ce vieux docteur C. Il a acheté cette monstruosité noire quand il est allé en Angleterre avant la Seconde Guerre mondiale. Il devait donner des conférences au London City Hospital, je pense. Il faisait partie de l'équipe chargée des préparatifs en cas de guerre. Il y a quelques années, il a raconté à mon oncle Lee que les médecins britanniques ont eu 100 fois moins de blessés que prévu pendant le Blitz. Je ne veux pas dire qu'ils s'étaient préparés à en avoir une grosse quantité, mais ils en attendaient davantage.
Votre docteur Calhoun a-t-il une bonne expérience de l'hypnose ?
Demanda Saul.
Je crois bien que oui, grasseilla Gentry.
C'est de ça qu'il est allé parler aux Anglais en 1939. Apparemment, certains experts locaux pensaient que les bombardements seraient si traumatisants qu'ils risquaient de plonger certains citoyens dans un état de choc. Ils ont estimé que Jack pourrait les aider grâce à ses connaissances en matière de suggestion post-hypnotique.
Il ouvrit la portière.
« Vous venez, Miss Preston ?»«
Bien sûr. »
Et Nathalie sortit sous la pluie. Gentry descendit de voiture et s'immobilisa. La pluie tambourina doucement sur les bords de son chapeau.
« Vous êtes sûr de ne pas vouloir venir avec nous, professeur ?»«
Non, je ne veux pas assister à ça. Je ne tiens pas à orienter les résultats de cette expérience. Mais il me tarde d'entendre ce que cette petite fille va vous dire. »
« Moi aussi. J'essaierai de garder un esprit ouvert, quoi qu'il arrive. »
Il referma la portière et se mit à courir, d'une foulée élégante pour un homme de sa corpulence, afin de rattraper Nathalie Preston.
« Un esprit ouvert, » songea Saul.
« Oui, je pense que vous avez cette qualité. Je le pense sincèrement. »«
Je vous crois, »
avait dit le shérif la veille, lorsque Saul était parvenu au terme de son histoire. Saul s'était efforcé de condenser son récit, transformant une narration de plusieurs heures en un synopsis de 45 minutes. Nathalie l'avait interrompu à plusieurs reprises pour lui demander de mentionner certains détails qu'il avait omis. Gentry lui avait posé quelques questions concises. Ils avaient déjeuné pendant que Saul poursuivait son récit. En moins d'une heure, récit et déjeuner avaient été achevés, et Gentry avait hoché la tête et dit « Je vous crois. »
Saul avait tiqué.
« Vous me croyez ?»
Gentry acquiesça.
« Ouais. »
Il se tourna vers Nathalie.
« Est-ce que vous l'avez cru, Miss Preston ?»
La jeune femme n'hésita qu'une seconde.
« Oui ?»
Elle regarda Saul.
« Je le crois toujours. »
Gentry n'ajouta rien. Saul tirailla sa barbe, ôta ses lunettes pour les nettoyer, puis les remit en place.
« Ne pensez-vous pas que mon histoire est quelque peu fantastique ?»«
Ah, que oui !»«
Mais il est tout aussi fantastique d'avoir sur les bras 9 assassinats dont les victimes n'ont aucun lien apparent les unes avec les autres. »
Le shérif se pencha en avant.
« Avez-vous déjà raconté cette histoire à quelqu'un ?»
Toute l'histoire, je veux dire.
Saul se gratta la barbe.
Je l'ai raconté à ma cousine Rebecca, dit-il doucement. En 1960, peu de temps avant sa mort.
Est-ce qu'elle vous a cru?
Saul regarda le shérif droit dans les yeux.
Elle m'aimait. Elle m'avait recueilli après la guerre et elle m'avait aidé à retrouver la raison. Elle m'a cru. Elle m'a dit qu'elle me croyait. Et j'ai choisi de la croire.
Mais pourquoi accepteriez-vous de me croire ?
Nathalie restait muette.
Gentry s'adossa à son siège et en fit craquer le bois.
Eh bien, en ce qui me concerne, professeur, je dois confesser que j'ai 2 gros défauts. Premièrement, j'ai tendance à juger les gens en fonction de l'impression qu'ils me font quand je les rencontre et que je les entends parler.
Prenez cet agent du FBI que vous avez vu dans mon bureau hier, Dickie Haynes.
Tout ce qu'il raconte est exact, logique et sensé. Il a l'air réglo.
Bon Dieu, même son odeur est réglo.
Mais il y a quelque chose chez ce type qui le rend à peu près aussi digne de confiance qu'un blaireau affamé. Ce cher monsieur Haynes n'est pas vraiment présent parmi nous, en quelque sorte. La lumière est allumée, mais il n'y a personne à la maison. Si vous voyez ce que je veux dire.
Il existe quantité de gens comme lui. Quand je rencontre quelqu'un que je le crois jusqu'au bout. Voilà tout. Ça m'attire pas mal d'ennuis. Deuxième défaut, je lis énormément. Je suis célibataire. Je n'ai aucun violon dingue en dehors de mon boulot. Il y a eu un temps où je voulais devenir historien, puis écrivain spécialisé dans la vulgarisation historique, comme Caton ou Tuckman, puis romancier. Je suis trop paresseux pour y avoir réussi, mais je continue à lire des tonnes de bouquins. J'adore la littérature populaire. J'ai donc passé un accord avec moi-même. Pour 3 livres sérieux que je lis, je m'autorise un livre distrayant. Des livres bien écrits, hein, mais des livres de distraction. Je lis des polars. John D. MacDonald, Robert Parker, Donald Westlake. Je lis des suspenses. Robert Ludlum, Trevanian, John le Carré, Len Dayton. Et je lis de l'épouvante. Stephen King, Steve Rasnick, Thème, ce genre de type. Il regarda Saul en souriant. Votre histoire n'est pas si étrange. Saul regarda le shérif en fronçant les sourcils. Monsieur Gentry, vous voulez dire que c'est parce que vous êtes un amateur de fantastique que mon histoire fantastique ne vous semble pas si fantastique que ça? Gentry secoua la tête. Non, monsieur. Je veux dire que votre récit concorde avec les faits et que c'est la seule explication que j'ai pour l'instant de cette série de meurtres. Haynes avait une théorie au sujet de Thorne. Le serviteur de la vieille dame aurait conspiré avec Miss Kramer pour dépouiller leurs employeurs respectifs.
Haynes déconne. Excusez l'expression, madame. Et il est impossible que ce pauvre Albert La Follette, le groom qui est devenu enragé à Mansard House, ait été le complice de quiconque. Je connaissais bien le père d'Albert. Ce gamin était à peine assez malin pour lasser ses souliers tout seul, mais c'était un brave gars. Il a refusé de faire partie de l'équipe de foot de son lycée, et il a dit à son père que c'était parce qu'il ne voulait blesser personne.
Mais mon récit est illogique, surnaturel même, dit Saul.
Il se sentait stupide d'argumenter ainsi, mais il n'arrivait pas à se convaincre que le shérif le croyait. Gentry haussa les épaules.
Je déteste les films de vampires où on voit des tas de cadavres avec 2 petits trous dans la gorge qui ressuscitent et où le héros met 1 heure et demie à convaincre ses alliés que les vampires sont bien réels.
Saul se frotta la barbe. Écoutez, reprit doucement Gentry. Quelles que soient vos raisons, vous nous avez raconté votre histoire. 3 hypothèses se présentent à moi. Premièrement, vous êtes impliqué dans ces meurtres. D'accord, je sais que vous ne les avez pas commis personnellement. Samedi après-midi et samedi soir, vous participiez à un débat à Columbia. Mais peut-être êtes-vous quand même impliqué. Peut-être avez-vous hypnotisé Mrs. Drayton. Je sais, l'hypnotisme ne marche pas comme ça. Mais les gens n'ont pas non plus l'habitude de dominer mentalement leurs prochains. Deuxièmement, vous êtes fou allié. Comme un de ces dingues qui viennent se confesser à la police chaque fois qu'un meurtre est commis. Troisièmement, vous dites la vérité. Pour l'instant, j'adopte cette dernière hypothèse. De plus, il est arrivé d'autres trucs bizarres qui concordent avec votre histoire, et avec elle seule.
Quel truc bizarre ?
Demanda Saul. Par exemple, il y a ce type qui m'a suivi ce matin et qui a préféré se tuer plutôt que de me parler. Et il y a l'album de la vieille dame.
L'album ? Dit Saul.
Quel album ?
Ajouta Nathalie. Gentry ôta son chapeau, en lissa les bords et le regarda en plissant le front.
J'ai été le premier flic à entrer dans la chambre où Mrs. Drayton a été tuée. Les infirmiers étaient en train d'évacuer le corps et les flics en civil de la ville étaient occupés à compter les cadavres au rez-de-chaussée. Aussi ai-je jeté un petit coup d'œil dans la chambre de la dame. Je n'aurais peut-être pas dû. C'est contraire à la procédure en vigueur. Mais je ne suis qu'un flic bouseux, après tout. Bref, il y avait un gros bouquin dans l'une de ses valises et je l'ai feuilleté. Il ne contenait que des coupures de presse relatives à des assassinats, celui de John Lennon et un tas d'autres, survenus à New York pour la plupart. Les plus anciens remontaient au mois de janvier. Le lendemain, la brigade criminelle avait pris l'enquête en main. Le FBI mettait son nez partout, bien que ce ne soit pas leur genre d'affaire. Et quand je suis allé à la morgue dimanche soir, plus d'album. Personne ne l'avait vu. Il ne figurait sur aucun rapport, sur aucun reçu, rien.
« Vous en avez parlé à quelqu'un ?» demanda Saul.
« Oh que oui ! À tout le monde, depuis les infirmiers jusqu'aux flics de la criminelle. Personne ne l'a vu. » Tous les autres objets trouvés dans la chambre avaient été transférés à la morgue et inventoriés le dimanche matin. Les sous-vêtements de la victime, ses vêtements, ses pilules pour le cœur, mais il n'y avait aucune trace d'un album relatif à une vingtaine de meurtres. « Qui a effectué l'inventaire ?» demanda Saul. « La brigade criminelle et le FBI. Mais Tobe Hartner, un des employés de la morgue, m'a dit que ce cher Monsieur Haynes avait examiné les objets prélevés sur le lieu du crime une heure environ avant l'arrivée des autres flics. Dickie s'est rendu directement à la morgue à sa descente d'avion. » Saul s'éclaircit la gorge.
« Vous pensez que le FBI a délibérément tenté de vous soustraire une preuve ?»
Gentry ouvrit de grands yeux innocents.
« Mais pourquoi diable le FBI ferait-il une chose pareille ?»
Un ange passa. Finalement, Nathalie Preston dit « Shérif, si une de ces créatures est responsable de la mort de mon père, que faisons-nous à présent ?» Gentry se croisa les mains sur le ventre et se tourna vers Saul. Les yeux du shérif étaient d'un bleu intense.
« C'est une excellente question, Miss Preston.
Qu'en pensez-vous, docteur Lasky ? Supposez que nous réussissions à capturer votre Oberst ou cette Fuller. Pensez-vous qu'il serait facile de les inculper ?»
Saul écarta les mains.
« Ça a l'air dingue, je l'admets. Si vous croyez mon récit, alors tout devient possible. » Aucun assassin ne peut être reconnu coupable s'il reste l'ombre d'un doute. Aucune preuve ne suffit à distinguer le coupable de l'innocent.
Je vois où vous voulez en venir, shérif.
Non, ce n'est pas si grave. Je veux dire, la plupart des meurtres sont encore des meurtres, exact. Ou bien pensez-vous que ces vampires psychiques se comptent par centaines de milliers ?
Saul ferma les yeux à cette pensée.
Je prie sincèrement pour que tel ne soit pas le cas.
Gentry acquiesça.
Nous avons donc à résoudre une énigme d'un genre spécial, n'est-ce pas?
Ce qui nous ramène à la question de Miss Preston. Que faisons-nous à présent?
Saul inspira profondément.
Il faut que vous m'aidiez à les guetter. Il y a une chance infime, pour que l'un ou l'autre des deux survivants revienne à Charleston. Peut-être que Mélanie Fuller n'a pas eu le temps d'emporter de sa maison des objets importants à ses yeux. Peut-être que William Borden, s'il est encore en vie, reviendra la chercher.
« Et ensuite ?» demanda Nathalie. « Ils ne peuvent pas être châtiés, pas par les tribunaux. Que se passe-t-il si nous les retrouvons ? Que pouvez-vous faire ?»
Saul pencha la tête, rajusta ses lunettes et passa des doigts tremblants sur son front.
« Ça fait 40 ans que je réfléchis à cette question, » dit-il à voix basse, « et j'en ignore toujours la réponse. Mais j'ai l'impression que l'Oberst et moi sommes destinés à nous revoir. »«
Ils sont mortels, » observa Gentry.
« Hein ?» fit Saul. « Oui, bien sûr, ils sont mortels. »
Quelqu'un pourrait s'approcher en douce de l'un d'eux et lui faire sauter la tête, pas vrai ? Ils ne sortent pas de leur tombe à la pleine lune ou je ne sais quoi. »
Saul considéra l'officier de police pendant une bonne minute.
« Où voulez-vous en venir, shérif ? » demanda-t-il finalement.
« À ça. En supposant que ces types ont effectivement les pouvoirs que vous leur attribuez, ce sont les créatures les plus terrifiantes que j'ai jamais rencontrées. Autant essayer de capturer des serpents venimeux à main nue la nuit dans les marais. Mais une fois que vous en avez identifié un, vous disposez d'une cible aussi visible que vous, moi, John Kennedy ou John Lennon. Il suffit d'avoir un bon fusil et de savoir s'en servir pour abattre une de ces créatures. Pas vrai, professeur ?
Saul regarda le shérif d'un air placide.
« Je ne possède pas de fusil. »
Gentry opina. « Avez-vous apporté une arme à feu avec vous ? »
Saul secoua la tête. « Possédez-vous une arme à feu, professeur ?»«
Non. »
Gentry se tourna vers Nathalie.
« Mais vous en avez une, madame. Vous avez dit tout à l'heure que vous l'aviez suivi dans la maison Fuller et que vous étiez prête à le menacer d'une arme pour l'arrêter. »
Nathalie rougit. Saul fut surpris de constater à quel point sa peau couleur café pouvait s'assombrir quand elle rougissait.
« Ce pistolet n'est pas à moi, » dit-elle. « Il était à mon père. Il le gardait à son magasin. Il avait un permis en règle. Il y a eu plusieurs cambriolages dans le quartier. Je suis allé le chercher lundi. »
« Pourrais-je le voir ?» demanda doucement Gentry. Nathalie alla dans l'entrée et prit le pistolet dans la poche de son imperméable. Elle le posa sur la table devant le shérif. Gentry le fit pivoter du bout du doigt afin qu'il ne vise personne.
« Vous vous y connaissez en armes à feu, professeur ? » demanda-t-il.
« Je ne connais pas ce modèle. »
« Et vous, Miss Preston, êtes-vous familiarisée avec les armes à feu ?»
Nathalie se frictionna les bras comme si elle avait froid. « J'ai un ami à Saint-Louis qui m'a appris à tirer. On vise et on appuie sur la détente. Ce n'est pas compliqué. »«
Vous connaissez bien ce pistolet ?» demanda Gentry. Nathalie secoua la tête.
« Papa l'a acheté après mon départ à la fac. Je ne pense pas qu'il s'en soit jamais servi. Je ne pense pas qu'il aurait été capable de tirer sur quelqu'un. »
Gentry haussa les sourcils et prit l'automatique. Il le braqua sur le sol en le tenant fermement par le pontet.
« Est-ce qu'il est chargé ?»«
Non, » dit Nathalie. « J'ai vidé le chargeur hier avant de sortir. »
Ce fut au tour de Saul de hausser les sourcils. Gentry hocha la tête et appuya sur un levier pour éjecter le chargeur de la crosse. Il le tendit à Saul pour lui montrer qu'il était bien vide.
« Calibre 32, n'est-ce pas ?» dit Saul.
« Modèle Lama automatique 32, » acquiesça le shérif. « Un joli petit objet.
Il a dû coûter $300 à M. Preston s'il l'a acheté neuf.
« Miss Preston, personne n'aime recevoir des conseils, mais je me sens obligé de vous en donner quelques-uns, d'accord ?»
Nathalie acquiesça d'un bref mouvement de tête.
Premièrement, ne braquez jamais une arme à feu sur quelqu'un si vous n'avez pas l'intention de lui tirer dessus.
Deuxièmement, ne braquez jamais un pistolet vide sur quiconque. Et troisièmement, si vous voulez que votre arme soit vide, assurez-vous qu'elle est vide.
Gentry désigna le pistolet.
« Vous voyez ce petit indicateur, madame ? Ce petit indicateur rouge ? Ça s'appelle un indicateur de charge, et comme son nom l'indique, il veut vous indiquer quelque chose. »
Gentry secoua le pistolet, et une cartouche tomba de la crosse sur la table. Nathalie blêmit, et sa peau prit une couleur cendrée.
« C'est impossible !» dit-elle d'une voix à peine audible. « J'ai compté les balles quand je les ai éjectées. Il y en avait sept.
Votre papa en avait sûrement coincé une dans la chambre avant de rabaisser le percuteur. Certaines personnes ont cette habitude. Comme ça, elles peuvent tirer 8 balles au lieu de 7. »
Le shérif inséra le chargeur vide et appuya sur la détente.
Nathalie tiqua en entendant le déclic.
Elle jeta un regard à l'indicateur de charge ainsi que l'avait appelé Gentry et vit qu'il n'était plus au rouge.
Elle repensa au moment où elle avait braqué son arme sur Saul, persuadée qu'elle n'était pas chargée, et se sentit un peu malade.
« Où voulez-vous en venir cette fois-ci, shérif ?» demanda Saul.
Gentry haussa les épaules et reposa le petit pistolet sur la table.
« Je pense que si nous nous lançons aux trousses de ces assassins, il vaudrait mieux que quelqu'un s'y connaisse un peu en armes à feu. »«
Vous ne comprenez pas ?» dit Saul. « Les armes à feu sont impuissantes contre ces types. Ils peuvent vous obliger à retourner votre arme contre vous. Ils peuvent vous transformer en arme. Si nous nous lancions à la poursuite de l'Oberst ou de la Fuller, aucun des membres de notre équipe ne pourrait se fier entièrement aux autres. »
« J'ai bien compris. Et j'ai également compris que si nous les retrouvons, ils seront vulnérables. S'ils sont dangereux, c'est surtout parce que personne ne sait qu'ils existent. À présent, nous le savons.
Mais nous ne savons pas où ils se trouvent.
Je pensais être si près. J'étais si près.
Borden n'est pas un inconnu. Il a une histoire, une compagnie de production, des associés, des amis. C'est un début.
Saul secoua la tête.
Je pensais que Francis Harrington ne courait aucun danger. Il devait seulement recueillir quelques renseignements. Si Borden était bien Lowburst, il risquait de me reconnaître. Je pensais que Francis ne courait aucun danger, et il est probablement mort à l'heure qu'il est. Non, je ne veux pas impliquer d'autres personnes.
Nous sommes déjà impliqués, dit sèchement Gentry. Nous sommes déjà mêlés à cette affaire.
Il a raison, approuva Nathalie.
Les deux hommes se tournèrent vers elle. Sa voix était de nouveau résolue.
Saul, si vous n'êtes pas fou, ces salauds ont tué mon père sans la moindre raison. Que ce soit avec vous ou sans vous, je retrouverai ces assassins séniles et je trouverai un moyen de les amener devant la justice.
Agissons comme si nous étions intelligents, dit Gentry.
Saul, est-ce que lors de vos séances, Nina Drayton vous a dit quelque chose qui soit susceptible de nous aider?
Pas vraiment. Elle m'a surtout parlé de la mort de son père. J'ai déduit qu'elle avait utilisé son talent pour l'assassiner.
Elle ne vous a parlé ni de Borden, ni de Mélanie Fuller?
Pas directement. Bien qu'elle ait mentionné des amis qu'elle avait connus à Vienne durant les années 30. D'après la description qu'elle m'en a faite, peut-être s'agissait-il de Lowburst et de Miss Fuller.
Quelque chose d'utile là-dedans?
Non. Il était surtout question entre eux de compétition et de jalousie sexuelle.
Saul, vous avez été utilisé par Lowburst, dit le shérif.
Oui.
Mais vous ne l'avez pas oublié.
N'avez-vous pas dit tout à l'heure que Jack Ruby et les autres souffraient d'un genre d'amnésie après avoir été utilisés?
Oui. À mon avis, les personnes utilisées par Lowburst et ses semblables se souviennent de leurs actes, à condition qu'elles s'en souviennent, comme on se souvient d'un rêve.
N'est-ce pas ainsi que les psychotiques se souviennent de leurs actes de violence?
Parfois. Dans d'autres cas, le psychotique considère sa vie quotidienne comme un rêve et ne se sent vivant que lorsqu'il inflige la douleur et la mort. Mais les personnes utilisées par Lowburst et ses semblables ne sont pas nécessairement des psychotiques. Ce ne sont que des victimes.
Mais vous vous souvenez de tout ce qui vous est arrivé pendant que Lowburst vous a possédé. Pourquoi?
Saul ôta ses lunettes et les nettoya.
Ce n'est pas pareil. C'était la guerre. J'étais un prisonnier juif. Il savait que je ne survivrais pas. Il était inutile de gaspiller de l'énergie à effacer mes souvenirs. De plus, j'ai réussi à m'échapper. J'ai pris Lowburst par surprise en me tirant une balle dans le pied.
Je voulais vous poser une question à ce sujet, dit Gentry.
Selon vous, Lowburst, surpris par la douleur, a relâché son contrôle pendant une minute ou deux.
Pendant quelques secondes.
Ok, pendant quelques secondes. Mais tous les gens qu'ils ont utilisés ici à Charleston ont dû souffrir horriblement.
Haupt, Thorne, l'ex-cambrioleur que Mélanie Fuller avait pris à son service, a perdu un œil et ça ne l'a pas arrêté.
La petite fille, Kathleen, a été battue à mort. Barrett Kramer est tombé du haut de l'escalier et a reçu plusieurs balles dans le corps. Monsieur Preston a été... Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Par chance, quand Lowburst était, dans mon esprit, impossible de le formuler autrement, j'ai eu un aperçu de ses pensées.
Télépathie ? Demanda Nathalie.
Non, pas vraiment. Pas comme on décrit la chose dans les romans de science-fiction. C'était un peu comme un rêve dont on essaie de se souvenir une fois réveillé. Mais j'ai suffisamment perçu les pensées de Lowburst pour comprendre qu'il n'avait pas coutume de fusionner avec ses pions comme il l'avait fait avec moi en m'utilisant pour tuer Der Alte, le vieux SS. Il voulait jouir de cette expérience en totalité, en savourer la moindre des nuances et des sensations. J'ai eu l'impression qu'il utilisait d'ordinaire ses pions comme tampons entre lui-même et la douleur éprouvée par ses victimes.
Comme si on regardait la télé en coupant le son, dit Gentry.
Peut-être, mais dans ce cas de figure, il ne perdait aucune information. Seulement le choc consécutif à la douleur. J'ai eu l'impression que Lowburst jouissait non seulement de la douleur de ses victimes, mais aussi de celle des marionnettes qu'il utilisait pour commettre ses meurtres.
« Pensez-vous qu'on puisse vraiment occulter de tels souvenirs ?» demanda Gentry.
« Dans l'esprit de ceux qui l'utilisaient ?»
Gentry acquiesça et Saul reprit.
« Non, on peut peut-être les enfouir. Tout comme la victime d'un grave traumatisme en enfouit le souvenir au fond de son subconscient. »
Gentry se leva alors, un large sourire aux lèvres, et tapa Saul sur l'épaule. « Professeur, vous venez de nous donner le moyen de trier le vrai du faux, les fous des saints d'esprit.
« Vraiment ?»
demanda Saul.
Il commença à comprendre, alors même que Gentry répondait par un sourire au regard interrogateur de Nathalie Preston.
« Vraiment ?» répéta le shérif. « Et dès demain, nous procéderons à un test qui nous fixera les idées pour de bon. » Assis dans la voiture du shérif, Saul écoutait la pluie tomber. Environ une heure s'était écoulée depuis que Gentry et Nathalie étaient entrés dans la clinique en compagnie du vieux médecin. Quelques minutes plus tard, une Toyota bleue s'était garée au bord du trottoir et Saul avait aperçu une fillette blonde, le bras gauche en écharpe et les yeux épuisés, escortée par un homme et une femme vêtus dans le style aussi impeccable que prévisible des Yuppies. Saul attendait. C'était une chose qu'il savait bien faire. Il avait acquis ce talent durant son adolescence passée dans les camps de la mort. Pour la 20e fois, il réexamina les raisons qui l'avaient poussé à impliquer Nathalie Preston et le shérif Gentry. Elle paraissait bien faible. L'impression d'être arrivée dans une impasse, la confiance que lui inspiraient ses deux improbables alliés après tant d'années de solitude et de soupçons, et finalement, le simple besoin de raconter son histoire. Saul secoua la tête. Il savait pertinemment que c'était une erreur, mais le fait de raconter son histoire lui avait fait énormément de bien. Rassuré par l'idée qu'il avait des alliés, que d'autres personnes avaient décidé de s'impliquer activement, Saul était tout disposé à se contenter d'attendre la suite des événements dans la voiture. Il était épuisé. Il savait que son épuisement n'était pas uniquement causé par le manque de sommeil et l'excès d'adrénaline dans son organisme. C'était une fatigue aussi douloureuse qu'un os meurtri, et aussi vieille que Relmno. Un épuisement aussi permanent chez lui que le tatouage sur son avant-bras. Il emporterait cet épuisement dans la tombe, ainsi que le tatouage pour l'éternité. Saul secoua de nouveau la tête, ôta ses lunettes et se frotta le nez. « Laisse tomber, vieil imbécile !» se dit-il. « Le Weltschmerz est un état d'esprit des plus pénibles. Plus pénible encore pour les autres que pour soi-même. » Il pensa à la ferme de David en Israël, à ses 9 arpents de terre loin des champs et des vergers, au pique-nique que David et Rebecca y avaient organisé peu de temps avant son départ pour l'Amérique. Aaron et Isaac, les jumeaux de David et Rebecca, alors âgés de 7 ans, avait joué aux cow-boys et aux indiens parmi les pierres et les fossés où les légionnaires romains avaient jadis traqué les partisans israélites. « Aaron, » pensa Saul. Il devait le retrouver samedi après-midi à Washington. Saul sentit aussitôt son estomac se nouer à l'idée d'impliquer une nouvelle personne dans son cauchemar, et un membre de sa famille cette fois. « Qu'a-t-il pu découvrir ?» se demanda-t-il. Et comment faire pour ne pas l'impliquer davantage? La fillette et ses parents sortirent de la clinique. Le médecin les suivit, serra la main du père, et la famille s'en fut. Saul s'aperçut qu'il avait cessé de pleuvoir. Gentry et Nathalie apparurent, échangèrent quelques mots avec le médecin, puis se dirigèrent vers la voiture.
« Eh bien ?» demanda Saul lorsque le shérif se fut glissé au volant et la jeune femme sur la banquette arrière. « Qu'est-ce que ça a donné ?»
Gentry ôta son chapeau et s'essuya le front avec un mouchoir. Il baissa sa vitre, et Saul sentit l'odeur de mimosa et d'herbes mouillées apportées par la brise. Gentry se tourna vers Nathalie.
« Racontez-lui donc. »
Nathalie inspira et hocha la tête. Elle paraissait secouée, troublée, mais sa voix était ferme. « Il y a une salle d'observation attenante au cabinet du docteur Calhoun, avec un miroir sans teint. Les parents d'Alicia et nous-mêmes avons pu observer la séance sans interférer avec son déroulement. Le shérif m'a présenté comme étant son assistante. »
« Ce qui est théoriquement exact dans le cadre de cette enquête, » dit Gentry.
« Je n'ai le droit de nommer des adjoints que lorsque l'état d'urgence est décrété dans le comté. Sinon, vous auriez été le député Preston. »
Nathalie sourit.
« Les parents d'Alicia ne se sont pas opposés à notre présence. Le docteur a utilisé un appareil ressemblant à un métronome lumineux pour hypnotiser la petite fille.
« Oui, oui. » dit Saul, luttant pour maîtriser son impatience.
« Qu'est-ce qu'elle a dit ?»
Les yeux de Nathalie regardèrent dans le vague, tandis qu'elle se remémorait la scène. Le docteur l'a amenée à se rappeler en détail la journée de samedi. Le visage d'Alicia était inexpressif à son arrivée, avant qu'elle soit hypnotisée. Mais il s'est brusquement éclairé, animé. Elle parlait à son amie Kathleen, la petite fille qui s'est fait tuer.
« Oui. »
dit Saul sans la moindre impatience cette fois-ci. Kathleen et elle étaient en train de jouer dans la salle de séjour de Mrs. Hodges. Debra, la sœur de Kathleen, regardait la télévision dans la pièce voisine. Soudain, Kathleen a lâché la poupée Barbie avec laquelle elle jouait et s'est précipitée dehors, de l'autre côté de la cour et dans la maison de Mrs. Fuller. Alicia l'a appelée, est allée dans la cour et s'est mise à crier.
Nathalie frissonna.
À ce moment-là, elle s'est tue. Son visage est redevenu inexpressif. Elle a dit qu'il lui était interdit d'en dire davantage.
« Était-elle toujours sous hypnose ?» demanda Saul.
« Elle était toujours sous hypnose, » lui répondit Gentry. « Mais elle était incapable de décrire ce qui s'est produit ensuite. Le docteur Calhoun a tenté à plusieurs reprises de l'aider à surmonter son blocage. » Elle a continué de regarder dans le vide et de répondre qu'il lui était interdit d'en dire davantage.
« Et c'est tout ?» demanda Saul.
« Pas tout à fait, » dit Nathalie. Elle regarda la rue lavée par la pluie, puis se tourna de nouveau vers Saul. Ses lèvres pleines étaient pincées tant elle était tendue. Le docteur Calhoun lui a alors demandé « À présent, vous entrez dans la maison de l'autre côté de la cour. « Dites-nous qui vous êtes. » Et Alicia n'a pas hésité une seule seconde. Elle a dit, et sa voix était différente, plus vieille, presque chevrotante, « Je suis Mélanie Fuller. » Saul se redressa de toute sa hauteur. Sa peau le picotait, comme si des doigts glacés venaient de se poser sur sa colonne vertébrale. Puis le docteur Calhoun lui a demandé si elle, Mélanie Fuller, pouvait nous dire quelque chose. Poursuivit Nathalie. Et le visage de la petite Alicia a changé. Il a en quelque sorte ondoyé. Des rides sont apparues sur sa peau, là où il n'y en avait aucune quelques secondes auparavant, et elle a dit, toujours avec cette voix de petite vieille, « Je viens te chercher, Nina !» Elle n'a cessé de répéter cette phrase, de plus en plus fort, « Je viens te chercher, Nina !» jusqu'à finir par la hurler.
« Grand Dieu !» dit Saul.
Le docteur Calhoun était tout secoué. Il a calmé la fillette et l'a fait sortir d'hypnose, lui disant qu'elle se sentirait heureuse et apaisée à son réveil. Elle ne l'était guère. Heureuse, je veux dire. Quand elle est sortie de sa transe, elle s'est mise à pleurer et à dire que son bras lui faisait mal. Sa mère m'a dit que c'était la première fois qu'elle se plaignait de son bras cassé, depuis qu'on l'avait retrouvée dans la rue le jour des meurtres. « Qu'est-ce que ses parents ont pensé du travail du docteur Calhoun ?» demanda Saul.
« Ils étaient troublés, » répondit Nathalie.
« Sa mère a failli aller la rejoindre quand elle s'est mise à hurler. Mais elle semblait soulagée à la fin de la séance. Son père a dit à Calhoun que les larmes et les plaintes d'Alicia
était une amélioration notable par rapport à son apathie de ces derniers jours.
« Et que dit le docteur Calhoun ?»
demanda Saul. Gentry posa un bras sur le dossier de son siège.
« Que ça ressemble à un cas de transfert consécutif à un traumatisme.
Il leur a recommandé de prendre rendez-vous avec un psychiatre, un type de Savannah que le toubib connaît bien, un spécialiste de la psychologie des enfants. Ça a pas mal discuté parce que les Kaiser se demandaient si les soins leur seraient remboursés. »
Saul hocha la tête et ils restèrent silencieux un moment. Au dehors, le soleil transperça les nuages et inonda de lumière les arbres, l'herbe et les buissons constellés de gouttes de pluie. Saul respira un parfum de pelouse fraîchement tondue et tenta de se rappeler qu'on était en décembre. Il se sentait perdu dans l'espace et le temps, égaré sur un courant qui l'emportait de plus en plus loin de tout rivage connu.
« Je propose que nous allions dîner et que nous reparlions de tout cela, » dit soudain Gentry.
« Professeur, vous prenez l'avion pour Washington demain de bonne heure, exact ?»«
Oui. Eh bien, allons-y.
C'est le comté qui régale. »
Ils mangèrent dans un excellent restaurant de fruits de mer situé sur Broad Street, dans le vieux quartier. La file d'attente était longue, mais dès que le directeur aperçut Gentry, il les conduisit dans une salle adjacente où une table libre apparut comme par magie. L'établissement étant plein à craquer, ils parlèrent de tout et de rien, évoquant tour à tour le climat de New York, celui de Charleston, la photographie, la crise des otages en Iran, la vie politique du comté de Charleston, celle de New York et celle des États-Unis en général. Aucun d'eux ne semblait enchanté du résultat des dernières élections. Après le café, ils allèrent chercher des vêtements chauds dans la voiture de Gentry, puis se promenèrent le long de la batterie. La nuit était fraîche et le ciel dégagé. Les derniers nuages s'étaient dissipés et les constellations hivernales étaient visibles, en dépit du halo des lumières de la ville. À l'est, de l'autre côté du port, on apercevait les réverbères de Mount Pleasant. Un petit bateau au feu de position rouge et vert faisait route vers l'ouest, suivant les bouées de navigation. Derrière Saul, Nathalie et Gentry, les hautes fenêtres des imposantes demeures brillaient d'une clarté orangée dans la nuit. Ils firent halte devant le mur de la batterie. L'eau venait lécher les pierres 3 mètres plus bas. Gentry regarda autour de lui, ne vit personne, et dit à voix basse.
« Et maintenant, professeur ?»«
Excellente question. Des suggestions ?»«
Votre rendez-vous de samedi à Washington a-t-il un rapport avec ce dont nous avons discuté ?» demanda Nathalie.
« Peut-être. Probablement. Je ne le saurai qu'après. Je regrette de ne pas pouvoir vous en dire plus. Cela concerne ma famille. »«
Et ce type qui me filait le train ?» dit Gentry.
« Oui. » Le FBI a-t-il pu vous apprendre son nom ?
Négatif. Sa voiture a été volée il y a 5 mois à Rockville, dans le Maryland. Mais on ne sait rien du tout sur cet homme. Les empreintes digitales n'ont rien donné, les empreintes dentaires non plus, rien.
N'est-ce pas inhabituel ? Demanda Nathalie.
C'est presque inouï, dit Gentry.
Il ramassa un caillou et le jeta dans la baie. De nos jours, tout le monde laisse des empreintes, d'un genre ou d'un autre.
Peut-être que le FBI n'a pas cherché à fond, intervint Saul.
Est-ce là votre théorie ?
Gentry lança un autre caillou et haussa les épaules. Il portait des vêtements civils, pantalons de toile et chemise écossaise, mais en sortant du restaurant, il avait pris dans le coffre de sa voiture son lourd manteau de shérif et un Stetson taché de sueur. Et il ressemblait de nouveau à la caricature d'un shérif sudiste.
« Je ne pense pas que le FBI utiliserait les services d'un vagabond comme ce type, » dit-il.
« Et s'il ne travaillait pas pour eux, alors qui donc l'utilisait ? Et pourquoi a-t-il préféré se tuer plutôt que de se faire arrêter ?»«
Cela ressemble à la façon dont l'Oberst utilise ses victimes, » dit Saul. « À moins que ce ne soit Mélanie Fuller. »
Gentry lança un autre caillou et tourna les yeux vers Fort Sumter, à 3 kilomètres de là.
Oui, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi votre Oberst s'intéresserait-il à moi? Bon sang, je n'avais jamais entendu parler de lui avant que vous me racontiez votre histoire, Saul. Et si Miss Fuller redoute des poursuivants éventuels, elle ferait mieux de surveiller les patrouilles de l'autoroute, la brigade criminelle et le FBI. Ce type n'avait rien dans son portefeuille excepté une photo de moi. Est-ce que vous avez cette photo sur vous? Demanda Saul. Gentry hocha la tête, la sortit de sa poche et l'attendit au psychiatre. Celui-ci se dirigea vers un réverbère tout proche afin d'avoir un peu plus de lumière. Intéressant, dit-il. C'est bien la façade de l'hôtel du comté derrière vous.
Oui.
Vous est-il possible de dire quand cette photo a été prise?
Ouais.
Vous voyez ce bout de sparadrap sur ma joue?
Oui.
J'utilise le rasoir à main de mon père. Il appartenait à mon père. Mais il m'arrive rarement de me couper en me rasant. Or, je me suis coupé dimanche matin, quand Lester, un de mes adjoints, m'a appelé de bonne heure. J'ai porté ce sparadrap pendant presque toute la journée.
Dimanche, dit Nathalie.
Oui, madame. Donc, la personne souhaitant vous faire suivre a pris cette photo. C'est du 35 mm, on dirait, pas vrai? Dit Saul.
Ouais.
A pris une photo de vous depuis l'autre côté de la rue. Puis quelqu'un a commencé à vous filer jeudi.
Ouais.
Pourrais-je voir cette photo, s'il vous plaît? Demanda Nathalie. Elle l'étudia une minute, puis déclara. La personne qui a pris cette photo avait un appareil automatique. Votre visage est moins exposé que la porte derrière vous. Sans doute un objectif de 200 mm. C'est relativement grand. Cette photo a été développée dans une chambre noire privée plutôt que dans un laboratoire commercial.
Comment le savez-vous? Demanda Gentry.
Vous avez remarqué la découpe du papier? Pas assez nette pour un travail de professionnel. Je parierais qu'il n'a même pas été massicoté. C'est pour ça que je pense qu'il s'agit d'un téléobjectif. Mais le développement a été fait à la hâte. Les amateurs pouvant faire des travaux couleurs ne sont pas rares de nos jours. Mais à moins que l'Oberst ou Miss Fuller ne demeurent chez une personne bien équipée, ils n'ont pas pu développer ce truc dans le coffre d'une voiture. Shérif, avez-vous vu récemment une personne possédant un SLR automatique avec téléobjectif?
Gentry eut un large sourire.
Dickie Haynes avait un machin comme ça. Un minuscule Konica avec un énorme objectif Bushnell.
Nathalie lui rendit la photo et se tourna vers Saul en plissant le front.
Est-il possible qu'il y en ait d'autres? D'autres créatures comme ces monstres?
Saul croisa les bras et se tourna vers la ville.
Je ne sais pas. J'ai cru pendant des années que l'Oberst était le seul. Un monstre engendré par le Troisième Reich, si une telle chose est possible. Puis mes recherches m'ont amené à penser que la faculté d'influer sur les actes d'autrui était peut-être beaucoup plus répandue. J'ai bien étudié l'histoire, et je me demande si des personnages historiques aussi divers que Hitler, Rasputin et Gandhi ne possédaient pas ce pouvoir. Peut-être que ce pouvoir existe chez chacun de nous, à des degrés divers, et qu'il s'est développé au maximum chez l'Oberst, chez Melanie Fuller, chez Nina Drayton et chez d'autres. Dieu sait combien d'autres.
Il pourrait donc en exister d'autres.
Oui,
dit Saul.
Et pour une raison inconnue, il s'intéresse à ma petite personne.
Oui.
Ok. Retour au point de départ, alors, dit le shérif. Pas tout à fait. Demain, je vais essayer d'en apprendre davantage à Washington. Quant à vous, shérif, peut-être pourriez-vous continuer de rechercher Mrs. Fuller et essayer de voir où en est l'enquête sur l'accident d'avion.
Et moi? Demanda Nathalie. Saul hésita.
Peut-être serait-il plus sage que vous retourniez à Saint-Louis et... Pas si je peux servir à quelque chose ici, insista la jeune femme. Que puis-je faire pour vous aider?
J'ai quelques idées à ce sujet, dit Gentry.
Nous en parlerons demain quand nous emmènerons le professeur à l'aéroport.
Entendu,
dit Nathalie.
« Je compte rester ici au moins jusqu'au premier de l'an. »
« Je vais vous donner le numéro de téléphone de mon domicile et de mon bureau, » dit Saul.
« Nous devrions nous contacter au moins tous les deux jours. Et même si notre enquête ne donne rien, shérif, nous pourrons toujours les retrouver grâce aux médias. »
« Ah oui? Et comment ?»«
Miss Preston n'est pas très loin de la vérité quand elle les qualifie de vampires. Tout comme les vampires, ces créatures obéissent à de sombres pulsions. Quand elles les assouvissent, cela ne passe pas inaperçu.
Vous voulez dire que nous devons faire attention si on signale de nouveaux meurtres?
Exactement.
Mais il se commet plus de meurtres dans ce pays en une journée qu'en Angleterre pendant un an, s'exclama Gentry.
Oui, mais Lowburst et ses semblables ont un penchant pour... le bizarre, dit doucement Saul. Cela m'étonnerait qu'ils changent leurs habitudes, au point que la marque de leur perversité ne soit plus perceptible.
D'accord. Dans le pire des cas, nous n'aurons qu'à attendre que ces vampires se remettent à tuer, puis nous remonterons jusqu'à eux. Nous les retrouverons.
Et ensuite ?
Saul sortit un mouchoir de la poche de son pantalon, ôta ses lunettes et lorgna les lumières du port tout en nettoyant ses verres. Les lueurs lui apparaissaient comme des prismes flous. La nuit lui semblait diffuse et envahissante.
« Nous les retrouverons, nous les suivrons et nous les capturerons.
Et ensuite, nous les traiterons comme on doit traiter les vampires. » Il remit ses lunettes et adressa un sourire glacial à Nathalie et au shérif.
« Nous leur planterons un pieu dans le cœur, » dit-il.
« Nous leur planterons un pieu dans le cœur, nous leur couperons la tête et nous leur bourrerons la bouche d'ail. Et si ça ne marche pas ?» Le sourire de Saul se fit encore plus froid.
« Nous trouverons autre chose. »